Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une perle aux portes de l'Europe perdue ou presque dans les montagnes du Caucase, un pays qui fait souvent rêver dès que l'on évoque son nom, l'Arménie. Première nation, dit-on, à avoir embrassé la foi chrétienne, ce pays est une sorte d'îlot chrétien frontalier de la Turquie ou de l'Iran. Un pays qui, après des siècles d'invasions diverses et variées, a fini par retrouver son indépendance en 1991. Un pays membre de plus de 35 organisations internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe ou la Communauté des États indépendants et dont la candidature à l'Union européenne a été récemment envisagée. Une émission Vivante Église ce matin à la découverte de l'Arménie, de l'Église arménienne, avec autour du plateau, alors il y a du monde, Gérard Kargosyan, vous êtes vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindra dans quelques instants le père Dertrat Bazikian, qui est prêtre de l'Église apostolique arménienne à Marseille et qui vient vous faire des visites ici dans votre communauté à Toulouse régulière. Marie-Pierre Pavlak, vous êtes productrice de l'émission Note de Passage et surtout de l'émission Immersion, émission de reportage de Radio Présence. Vous avez fait des reportages sur la communauté arménienne. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Emmanuel.
Et Jean-Marie Ferenbach, vous êtes président des Amis de Radio Présence. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Emmanuel.
Bonne année à tout le monde déjà, pour commencer.
Bonne année à vous, Emmanuel.
Et à tous les auditeurs, en espérant qu'elle sera aussi bonne que l'année dernière.
On peut vous le dire en arménien aussi.
Vous pouvez, allez-y.
Shnolavol Nordari.
Voilà, formidable. Alors je ne vous demande pas comment ça s'écrit, parce qu'il paraît que vous avez un alphabet arménien.
Assez compliqué.
Voilà, j'ai découvert ça.
39 lettres.
39 lettres. Alors on va commencer peut-être par situer ce pays, parce que pour certains l'Arménie ça veut dire quelque chose, pour d'autres peut-être rien du tout. Donc c'est un pays frontalier de la Turquie, de la Géorgie, de l'Iran et de
l'Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan. C'est un pays de à peu près 30 000 km², dont l'altitude est située entre 400 et plus de 4 000 mètres, mais globalement qui a près de 1 000 mètres d'altitude. Donc un pays dans les montagnes, une espèce comme ça de, je disais, de petite perle. Comment vous présenteriez votre cher pays pour un peu plus conséquemment, en tout cas juste pour le situer peut-être géographiquement?
Oui, alors géographiquement, c'est ce que l'on disait. Hein. Donc l'Arménie au nord, elle est limitée par la Géorgie, on va dire à l'est par l'Azerbaïdjan. Une petite frontière avec l'Iran qui est relativement courte. Une frontière immense avec la Turquie, mais qui est impénétrable, puisque aujourd'hui il y a un blocus qui est opéré par la Turquie vis-à-vis de l'Arménie. Et malheureusement pour ce petit État, il n'y a pas d'accès à la mer. Voilà. L'idéal, ça aurait été d'avoir un accès à la mer Noire. Ça n'a pas été le cas. En 1921, ça a failli être le cas au traité de Sèvres, mais le traité de Sèvres a été remis en question, parce qu'il y a eu le traité de Genève qui a entériné la partie arménienne qui a été envahie par les Turcs, et l'Europe n'a pas réagi, et cette partie est restée ottomane.
Voilà. Comment vous présenteriez donc, c'est quoi, c'est un petit bijou dans les montagnes,
c'est un petit pays
touristique.
Oui, c'est un petit pays. C'est l'équivalent de la Belgique, donc c'est un tout petit pays qu'on traverse assez rapidement, sauf que c'est un pays qui est un peu escarpé, puisqu'on trouve des vallées, des plaines autour de l'Arax, et puis on trouve des montagnes à plus de 4000 mètres, dont le mont Aragats. Et en un mot, c'est un très joli pays. C'est un pays où on peut découvrir des monastères absolument splendides. Et bien évidemment, je conseille aux gens qui nous écoutent d'aller en Arménie aujourd'hui. C'est facile. Il y a des avions qui partent de Marseille.
Alors on va commencer par les faire voyager. Comme ça, défaut, si par hasard ils n'avaient pas les moyens de se payer un voyage, au moins ils auront l'impression de.
Voilà. Alors c'est un pays où il y a 3 millions d'habitants. Donc c'est pas qui s'est vidé un peu de sa population suite à l'effondrement de l'Union soviétique et du séisme de 1988. Donc les Arméniens sont partis un petit peu dans le monde entier.
Donc quand vous dites 3 millions, c'est 3 millions in situ.
In situ, voilà. Voilà.
Et plus la diaspora,
c'est la diaspora qui représente entre 6 et 7 millions, dont 2 millions en Russie, on va dire 1,3 million à peu près aux États-Unis, 700 000 en France. On trouve aussi beaucoup d'Arméniens au Liban, en Syrie, et puis dans tous les pays finalement du monde.
Alors, on va pas vous raconter toute l'histoire de l'Arménie, mais en tout cas, on a l'habitude, en tout cas, dès qu'on se plonge dans l'histoire de l'Arménie, on entend dire que c'est une des plus vieilles civilisations du monde, ou un des plus vieux pays, plutôt, pardon, du monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous parler de ce fameux, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le qualifier, c'est un royaume, mais de l'Urartu. Donc, qu'est-ce qu'était l'Arménie quelques siècles avant Jésus-Christ?
Oui, alors, quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est une dizaine de siècles avant Jésus-Christ. Hein. Il y a eu un royaume qui a été important, qui était le royaume d'Urartu, dont on parle aujourd'hui beaucoup en Arménie, bien sûr. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu la création d'une capitale qui s'appelait Yerebouni. Et Yerebouni, en fait, c'est Yerevan. Et la création de cette capitale, c'est autour de 750 avant Jésus-Christ.
C'est ce qui fait qu'on dit qu'Yerevan est une des plus
anciennes capitales
du monde.
Absolument. Alors, Yerevan n'a pas toujours été la capitale de l'Arménie, puisqu'il y a eu différents royaumes en Arménie. Il y a eu Ani, qui a été une capitale importante, qui n'est plus en Arménie, qui est de l'autre côté de la frontière en Turquie. Il y a eu Dvin, pas très loin de Yerevan, qui a été aussi une capitale. Mais il faut quand même retenir...
D'où s'étendait ce royaume de l'Urartu?
Alors, le royaume d'Urartu était relativement grand, puisqu'il approchait la mer Noire, jusqu'à la mer Caspienne, et n'allait pas jusqu'à la Méditerranée, mais pas très très loin. Donc c'était un royaume absolument immense.
Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est... Il y a une autre période pour vous, enfin, un peu fondatrice, on va dire, en tout cas, qui dit ce qu'a été ce pays et son ampleur, c'est l'époque du royaume d'Arménie, cette fois, sous un certain Tigrane le Grand. Alors dites-nous peut-être qui était Tigrane le Grand, alors, et puis pourquoi est-ce que vous tenez à citer cette
alors,
période?
Alors, on va dire, c'est l'apogée du royaume, hein. Tigrane était un roi, je dirais, c'est un roi qui a eu une influence sur l'Arménie énorme. C'est quelqu'un qui était de culture hellénique, hein. Et c'est à cette époque où les Arméniens avaient de fortes, d'énormes relations avec les Grecs. On se retrouve dans les années 95 avant Jésus-Christ, à peu près. Et dans ce royaume, en fait, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. La culture a pris une importance phénoménale, la musique. Et ce royaume était un royaume relativement riche qui s'étendait à ce moment-là de la Caspienne à la mer Noire jusqu'à la Méditerranée. Donc on peut dire que c'est l'apogée, en fait, de ce royaume qui est importante. Alors, Tigrane le Grand est décédé en 55 avant Jésus-Christ. Et là, ça a été, en fait, un peu le déchirement entre les Romains, entre les Perses, qu'ont voulu...
Sur le bureau, allez-y, on est en direct. Alors Jean-Marie Fehrenbach, pendant que monsieur éteint son téléphone portable.
Oui.
Décidément, heureusement que c'est de la nouvelle année, parce que sinon il aurait été mis à l'amende.
Mais je suis mis à l'amende.
Je vous en prie, non, je vous en prie, ça peut arriver.
Oui, Emmanuel.
Jean-Marie Fehrenbach, quand vous êtes allé en Arménie, qu'est-ce que vous diriez, non pas, on va dire, la partie histoire, on va la laisser à notre invité, monsieur Kargosian, mais ça vous a frappé quand vous avez voyagé, que vous êtes allé en Arménie, de voir justement l'ancienneté de cette civilisation? Ça se touche du doigt là-bas?
Alors pour moi c'était une découverte parce que je connaissais l'Arménie de façon un peu livresque et j'ai découvert un pays qui est très beau effectivement. Il ne fait pas toujours très beau en hiver mais c'est quand même un pays magnifique.
C'est franc.
Et qui avait la caractéristique que je ne connaissais pas du tout alors, c'était de posséder une histoire d'architecture religieuse qui est absolument unique. Elle a certes des relations avec tout ce qui s'est passé dans le monde byzantin, mais elle est très ancienne, puisqu'elle a une apogée de construction à partir du 7e siècle, hein, ce qui est très impressionnant. Et elle se poursuit en construction jusqu'au 14e, 15e, il y a même des églises qui sont retouchées au 17e. Mais cette proximité avec tout l'environnement byzantin m'avait paru extraordinaire. Donc je crois que ne serait-ce que pour ça... La connaissance de l'Arménie est déjà quelque chose d'extraordinaire.
Jean-Marie Fehrenbach, vous venez de répondre, pardon, c'est le début d'année. Marie-Pierre Pavlak, même question, je ne sais pas, vous connaissiez probablement l'Arménie avant de... peut-être les Arméniens avant de vous plonger dans ces reportages.
Ah non, pas mais du tout.
Qu'est-ce que vous avez découvert?
Pas du tout, Emmanuel, absolument pas. Je ne suis jamais allée en Arménie. La vie est longue encore, j'espère pouvoir m'y rendre un jour.
Non mais quand vous avez fait vos reportages, voilà, c'est...
Lorsque j'ai fait mes reportages, non, c'était une question d'opportunité. C'était aux alentours, je pense, 2014-2015, au moment du centenaire du génocide des Arméniens. Et je pensais qu'il serait intéressant, dans le cadre de l'émission Immersion, de faire connaître cette communauté arménienne.
Ma question, c'était davantage, quand vous avez découvert cette communauté, est-ce que vous avez été aussi surpris, justement, par... par son ancienneté, par sa richesse. Quelles ont été vos premières impressions peut-être?
Alors, mes premières impressions, je reviens à ce que je vous dis Emmanuel, c'est que j'ai commencé à connaître l'Arménie à travers la communauté arménienne qui vit ici en région Midi-Pyrénées, la communauté arménienne d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé par ce qui est contemporain. Ensuite, évidemment, je suis allée me renseigner sur l'histoire, sur son passé, mais ma première approche, ça a été avec les Arméniens d'aujourd'hui, depuis, disons, que l'arrivée des premières générations depuis le génocide et les différentes strates de population qui se sont installées ici dans notre région.
Alors, on recommence à reparcourir un petit peu d'histoire avec vous, Monsieur Kargosyan. L'Arménie a été, en fait, à vous entendre depuis ce royaume d'Arménie, donc sous Tigrane le Grand, sorte d'apogée peut-être de l'histoire d'Arménie, vous me direz, a connu ensuite de multiples invasions. Alors, parlez-nous de ces grandes invasions et en quoi elles ont marqué votre pays. Est-ce que c'est quelque chose qui se sent aujourd'hui encore?
Oui, alors les invasions, il y a de multiples invasions. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes ces invasions, mais...
On peut citer les grandes, en tout cas.
Mais
voilà.
On peut citer les grandes.
Vous étiez sous occupation byzantine, perse, turc, russe.
Les Perses ont eu un poids énorme en Arménie, bien évidemment, à tel point qu'à une certaine période, il y a eu un exode important d'Arméniens vers l'Iran, hein, actuel, et entre autres dans la région d'Ispahan. Et on trouve à Ispahan une communauté arménienne relativement importante, et d'ailleurs une très belle église à Ispahan, où on célèbre le Noël de manière majestueuse.
Parlez bien devant le micro.
Voilà. Oui, donc bien évidemment, il y a eu une période compliquée avec les Perses, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que les Perses, autour du 4e ou 5e siècle, ont respecté la foi des Arméniens. C'est-à-dire que il y a eu une pression très forte des Perses sur l'Arménie, mais il y a eu un certain respect de la culture et, je dirais, de la religion. Les Arméniens, après une bataille sévère avec les Perses, hein, qui était la bataille d'Avalaï en 451, ont quand même pu garder, je dirais, leur culture et pouvoir... ont pu pratiquer leur religion. Donc ça, c'était important. Alors après, il y a eu d'autres dominations avec l'arrivée de l'islam autour de 680. Il y a eu des invasions arabes en Arménie extrêmement importantes et qui ont duré 3 siècles. Donc après cette période, après ces 3 siècles d'invasion, l'Arménie a essayé de rebondir, de reprendre un petit peu son, on va dire un peu son indépendance, mais ce qui a été très compliqué, parce qu'après ces invasions, il y a eu les Seljoukides qui sont arrivés en Arménie. C'était des nomades de Turcs, et auquel cas l'Arménie a encore souffert de ces invasions. Et pour les Arméniens, à cette époque, ça a été aussi une période relativement terrible. On peut dire d'une manière générale que l'Arménie a été un peu à la croisée des différentes civilisations.
Parlez bien devant le micro, excusez-moi d'insister, mais ouais. Voilà.
Et on peut dire qu'elle a subi des influences qui étaient des influences positives, mais elle a aussi souffert des invasions, surtout des invasions ottomanes et seljoukides. Voilà.
Voilà, et puis, dernière occupation, c'était donc la période russe. Alors, est-ce que c'est considéré comme une occupation par le peuple arménien?
Alors, avant de parler de la période russe, il y a quelque chose qui est important, c'est que, comme cette Arménie a souffert d'invasions arabes, seljoukides, etc., il y a eu des exodes qui ont eu lieu déjà, et entre autres, il y a eu un exode important des Arméniens vers la Cilicie, qu'on appelait la Petite Arménie, qui se trouve au nord... ouest de la Syrie, autour de l'Euphrate, voilà, avec une capitale qui s'appelait Cis. Et cette petite Arménie est devenue un lieu assez extraordinaire où la culture était florissante, où il y a eu des échanges énormes avec les croisés. C'est-à-dire que les croisés sur le chemin de Jérusalem avaient un appui avec les Arméniens, mais c'était en fait un échange, parce que les croisés aussi apportaient une protection à cette petite Arménie, mais venaient aussi en Arménie parce que c'était un petit pays ami. Et il y a eu des relations énormes, y compris avec les comtes de Toulouse, hein, puisque les comtes de Toulouse passaient par l'Arménie. Et je me souviens d'une magnifique conférence qui avait eu lieu au Jeux Floraux par le professeur Puel sur cette période, on dira, des comtes de Toulouse en Arménie. Voilà, alors ce petit pays, rapidement, a eu un roi qui s'appelait Léon VI. Et Léon VI, donc, parlait relativement bien le français. Et à l'époque, comme il y avait des échanges importants avec les Français, il y a des mots français qui sont restés dans la langue arménienne. Entre autres, le mot « baron », en arménien, ça veut dire « monsieur ». Mais les barons, c'était les notables, en fait, du royaume. Voilà. Mais il y a d'autres mots qui sont restés. Hein. « Chakar », ça vient de « sucre », etc. Donc c'est... Et alors, ce dernier roi a été, donc, on va dire, enlevé et emprisonné en Égypte. Il a été libéré, et c'était de la famille des Lusignans. Et ce roi est décédé à Paris et est enterré au Père Lachaise.
Voilà. Alors, comme le temps passe, on ne va pas parler de la période russe, parce que sinon on prendrait peut-être un petit peu de temps. Ou alors, vous pouvez l'évoquer rapidement. Je vais vous poser la question de savoir si c'est considéré par les Arméniens comme une période d'occupation aussi. C'est...
Alors, chez les Arméniens, ça a été considéré par certains comme une occupation, et par d'autres, non. Tout dépend du côté où on se place. Mais globalement, cette période russe d'occupation a permis à une petite enclave arménienne d'être protégée des Ottomans, bien évidemment, puisque les Russes ont été en guerre avec les Turcs et les Ottomans d'innombrables fois. Voilà. Et cette petite partie, qui a été occupée, bien sûr, par la Russie, hein, tsariste à l'époque, a basculé au début du XXe siècle. Hein, puisque elle est devenue les bolcheviks sont arrivés en Arménie, il y avait plus de terres privées, etc. Donc l'Arménie est devenue soviétique à cette époque-là.
Voilà. Alors comment ne pas finir cette rapide présentation historique en ne parlant pas du génocide arménien. Donc le génocide arménien, c'était donc en 1915. Le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman décide d'en finir avec la minorité arménienne, et donc on dit que c'est le premier grand génocide du XXe siècle, entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens qui ont été tués. Qu'est-ce que vous nous diriez pour présenter rapidement ce grand drame qu'a vécu votre nation?
Ce drame n'a pas été le premier drame pour les Arméniens, c'est-à-dire que au XIXe siècle, il y a déjà eu des massacres importants, on va dire en 1894.
Donc sous la période ottomane.
Sous la période ottomane, on parle de 300 000 morts, donc ce qui n'est pas négligeable. On parle de 100 000 personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins. On parle de 50 000 orphelins. Vous voyez, donc déjà au 19e siècle, il y avait quelque chose qui était qui s'est passé, qui était quelque chose d'absolument abominable pour les Arméniens. Puis, vous parliez des jeunes Turcs. Donc ces jeunes Turcs, qui étaient un parti progressiste, sont arrivés au pouvoir. Les Arméniens pensaient pouvoir participer au gouvernement avec les jeunes Turcs. Et puis finalement, les jeunes Turcs se sont retournés contre les Arméniens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un conflit, il y a la guerre de 1914 qui a éclaté. Et il faut savoir qu'il y avait un accord secret qui avait été signé entre la Turquie et l'Allemagne. Voilà. Et au mois de novembre, la Turquie a officiellement déclaré la guerre donc à la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Et comme il y avait des Arméniens de part et d'autre, une partie en Russie et une partie, on va dire, en Turquie, c'était l'occasion pour les jeunes Turcs de se débarrasser des Arméniens, de dire que parmi les Arméniens, il y avait des traîtres, puisqu'ils étaient de part et d'autre, hein, et qu'il y avait la guerre. Et donc ça a été l'occasion pour les jeunes Turcs d'essayer d'éradiquer les Arméniens de Turquie. Alors 1915, vous l'évoquiez, c'est le départ, le 24 avril, on va dire, du génocide officiel, mais il avait commencé avant, parce que des notables, 650 notables ont été arrêtés dans la capitale et ont été fusillés, éliminés. On parle de djihad. On parle de djihad à l'époque. Hein. Le comité Union et Progrès parlait de djihad à l'époque. Voilà.
Voilà, on va faire une pause musicale et puis on va vous retrouver tout de suite après. Cette fois, on pourra revenir sur l'histoire de l'Arménie, mais on va parler davantage des chrétiens d'Arménie, donc avec deux grandes réalités chrétiennes, l'Église apostolique arménienne, mais aussi l'Église catholique arménienne. On évoquera aussi le voyage du pape François en Arménie et la canonisation en 2015 à l'occasion de l'anniversaire terrible de ce génocide, canonisation de toutes ces victimes du génocide arménien. On fait une pause et on vous retrouve tout de suite après. Mmh.
plaisance. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin à la découverte de l'Arménie ou de l'Église arménienne, avec autour du plateau donc Gérard Kargoisian, vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, le père d'Ertrat Bazikian qui nous a rejoint, qui est prêtre de l'Église apostolique arménienne à Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Pierre Pavlak qui est toujours en plateau et qui est entre autres productrice de l'émission Immersion, immersion de reportage sur cette antenne, et Jean-Marie Ferenbach, président des Amis de Radio Présence. Alors dans la première partie de l'émission, on a essayé de situer un petit peu ce pays, on a fait le choix d'essayer de raconter son histoire à grands pas, une histoire extrêmement riche. Monsieur Kargoisian a essayé de nous faire une forme de digest. J'aimerais maintenant qu'on parle des chrétiens d'Arménie. Alors on a l'habitude de dire que c'est la plus ancienne nation chrétienne du monde. Alors peut-être que vous pouvez commencer par là, père Bazikian, pourquoi est-ce qu'on dit cela de l'Arménie ?
Très bien. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter avec vos auditeurs pour cette nouvelle année, avec plein de joie, de paix et d'amour. Et en passant sur l'historique de l'Église arménienne, sur la création aux origines de l'Église arménienne, c'est exact, c'est reconnu comme la plus ancienne Église chrétienne du monde. L'histoire de l'Église arménienne remonte au premier siècle du christianisme, car déjà à la fin de premier siècle, il y avait des communautés chrétiennes converties par deux apôtres de Jésus-Christ, Saint Thaddée, Saint Barthélemy. Saint Thaddée dit aussi Jude, qui sont venus en Arménie par l'ordre de leur Seigneur Jésus-Christ pour convertir les différentes nations ainsi que les Arméniens.
Donc les Arméniens qui jusque-là étaient quoi en fait ? C'était quoi ? C'était un pays.
Les Arméniens avant le christianisme jusqu'au début du 4e siècle, ils étaient païens. Ils adoraient le feu. Après, il y avait des divinités aussi romaines. Car l'Arménie faisait partie de cet empire créé par l'Alexandre le Grand. De la culture hellénique, donc il y avait aussi des divinités païennes, officiellement, c'était la religion Zoroastre, que les Arméniens, comme les Iraniens, ils adoraient le feu. Et la divinité, c'était le dieu principal, c'était Aramazd, Astrik, Anahit, etc.
Voilà, donc il y a eu une première évangélisation donc des apôtres que vous avez cités, donc les apôtres Thaddée et Barthélemy. On a même trace donc de persécutions qui ont été rapportées par Eusèbe, de Césarée et Tertullien, donc dans les premiers siècles. Et puis donc, ça serait la plus ancienne nation chrétienne parce que c'est semble-t-il le premier État à adopter le christianisme sous un certain Tiridate IV. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Qu'est-ce que l'on sait de cela et de sa conversion par le biais de Saint Grégoire l'Illuminateur.
Alors, pour commencer de vous présenter l'historique de conversion du peuple arménien, il faut d'abord préciser que l'Église apostolique arménienne, c'est une Église nationale qui fait partie de l'identité arménienne et son histoire est étroitement liée à l'histoire du peuple arménien. Aussi parce que pendant des longs siècles, le rôle de l'État aussi a été mis sur les épaules de l'Église apostolique arménienne. Pendant plusieurs siècles, on avait perdu notre indépendance et l'État libre. Donc c'est l'Église qui assurait cette fonction pour le peuple arménien et qui a aussi formé la culture, l'identité, tous les aspects de la société arménienne presque. C'est très important. Et aussi, c'est une église autocéphale qui fait partie des cinq églises orthodoxes orientales qui sont connues comme des églises de trois conciles ou précalcédoniennes. Voilà, c'est très important de savoir ça.
Alors, préciser pour, on va dire, pour les nuls, précacédonienne, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'elle a accepté les décisions des premiers conciles universels de l'Église chrétienne avant le concile de Chalcédoine. On n'a pas rejeté les décisions du concile de Chalcédoine qui a eu lieu en 451, parce qu'on était en guerre avec les Perses, et puis on ne s'est jamais intéressé de ces décisions. Puis les décisions de ce concile des églises a été rejeté un peu plus tardivement, un siècle après.
Excusez-moi, juste avant que vous précisiez donc, les caractéristiques de cette église et puis ce qu'on on l'a dit être donc une église monophysite. En tout cas, c'est comme ça qu'on présentait donc ces églises. Je reviens sur cette conversion, on va dire cette naissance chrétienne de l'Arménie. Donc on la situe en 301 et donc c'est un roi Tiridate IV qui aurait donc été converti par Grégoire l'Illuminateur. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on sait de cette conversion et parlez bien de vous aussi devant le téléphone, s'il vous plaît.
Très bien, très bien. Donc, la conversion du roi d'Iridate IV est liée par les événements historiques. Nous avons le privilège d'avoir plusieurs sources historiques sur les faits qui se sont passés à la fin du 3e et au début du 4e siècle. Le roi d'Iridate, qui au début persécutait les chrétiennes, parce qu'ils étaient étrangers pour ce pays païen, a persécuté les noms qui sont venus de l'Empire romain, les sœurs Caiana et Ripsimé. Puis, selon la tradition, il est tombé malade. Les sources ils disent qu'il est devenu comme un sanglier, qui a perdu son conscience, puis après quelques années, c'est le Grégoire qui s'appelait avant Souren, originaire de Perse, qui est venu en Arménie, qui était devenu moine à Césarée, qui était converti au christianisme à Césarée, qui est venu en Arménie pour convertir le peuple arménien au christianisme.
Pardon. Donc c'est de là que date donc la naissance chrétienne. Alors moi je pensais que c'était, on dit toujours France fille aînée de l'Église. Alors là il y a un bug. Qu'est-ce que peut nous dire Monsieur Kargosian? C'est en fait Arménie fille aînée de l'Église, non? C'est ça? C'est ce qu'il faudrait dire. Voilà, tout le monde sèche. Jean-Marie Ferenbach, vous séchez aussi ou pas? Qu'est-ce que vous diriez sur ça?
Je crois qu'il y a surtout beaucoup d'églises distinctes les unes et les autres pour des raisons historiques.
Oui, c'est ça.
Et en particulier, je crois que si on revenait sur Chalcédoine, il me semble me souvenir qu'une des raisons pour lesquelles les conclusions de Chalcédoine n'ont pas été retenues finalement par l'Église arménienne, c'est que il y avait des raisons politiques, c'est que pour bien s'entendre avec les Perses, il fallait pas trop prendre position en faveur de Byzance.
Ouais.
Et ça a joué aussi, ça.
Alors, donc, on dit que c'est une église monophysite. Alors, il ne s'agit pas de passer toute l'émission à se plonger dans les premiers conciles de la vie de l'église, mais juste qu'est-ce que ça veut dire, et puis peut-être apporter une précision, parce que depuis, il y a du chemin qui a été fait, et aujourd'hui, enfin, on a une foi commune, j'ai envie de dire.
Ben, certainement, on a une foi commune parce qu'il faut distinguer deux explications de l'Église. L'Église, d'abord, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Ce sont tous les fidèles qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. L'autre côté, il y a les églises institutionnelles. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, l'Église arménienne fait partie de ces églises traditionnelles, institutionnelles, où c'est une des dénominations de l'Église chrétienne. Alors, c'est le côté institutionnel qui a été créé au début de 4e siècle, avant l'édicte de Milan. Donc, c'est très important de savoir aussi que le christianisme, au début du 4e siècle, est devenu une religion officielle. Pourtant, dans l'Empire romain, ça a été déclaré comme le christianisme comme une religion tolérée, jusqu'à l'empereur Théodose. Donc pendant plusieurs décennies, le christianisme dans l'Empire romain était une religion à côté des autres religions païennes. C'était une religion tolérée. Pourtant, au début du 4e siècle, déjà le christianisme a été déclaré comme la seule religion officielle
d'accord,
de
juste...
l'État arménien.
Excusez...
Toutes les autres religions ont été rejetées, ont été interdites officiellement.
D'accord, alors juste, ma question portait plus sur ce que ça voulait dire qu'une église monophysite. Donc monophysite, si j'ai bien compris, c'est que voilà, autour du concile de Chalcédoine qui devait reconnaître la double nature du Christ, certaines églises ont considéré que la nature du Christ était uniquement divine, même si, comme je le disais, il y a du chemin qui a été fait depuis, de part et d'autre. Alors si on devait présenter un petit peu plus peut-être la vie de cette église, je sais pas, il y a combien de fidèles? Est-ce que tous les Arméniens sont chrétiens, sont de l'église apostolique arménienne? Alors pas tous puisqu'il y a des catholiques, mais donc c'est, quand on dit que c'est une nation chrétienne, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, on va dire en Arménie et dans la diaspora? Qu'est-ce que vous diriez, Père Bazikian?
Alors donc d'abord pour vous expliquer ce que c'est monophysite, l'église...
Alors juste, excusez-moi, je préfère qu'on avance s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre juste à cette question? Donc les chrétiens aujourd'hui, est-ce que les arméniens aujourd'hui sont des chrétiens? Chrétiens et arméniens, on va dire, ça va souvent de pair. Alors je sais pas, qu'en est-il de la vie de foi, de la pratique des arméniens ou des membres de la diaspora?
Nous avons subi beaucoup de catastrophes dans l'histoire. Nous avons eu presque, on peut dire, il y en a qui évoquent ce sujet comme ça, deux génocides, le génocide de premier siècle, enfin, de début du XXe siècle, perpétré par le gouvernement turc, et le deuxième qui s'appelle aussi génocide blanc, c'est le régime athée communiste qui a essayé presque de supprimer l'identité chrétienne du peuple arménien. Et nous voyons encore ces cicatrices chez les arméniennes issues de l'Arménie, qui habitent en Arménie. Ils commencent à se rapprocher à leurs églises d'origine parce que c'était complètement interdit pendant 70 ans. Les gens, ils ont perdu pas mal de choses de leurs origines chrétiennes. Donc, c'est une reconversion maintenant. Et les gens, ils redécouvrent leurs églises identitaires. Donc, il y a une très grande filiation avec cette église. Sauf, il faut du temps pour que ça soit basé sur l'éducation aussi religieuse, sur les valeurs chrétiennes aussi. Donc, voilà. Donc,
C'est un pays qui est en pleine renaissance chrétienne. J'aimerais qu'on parle un petit peu du voyage du pape François. Donc en juin 2016, le pape François s'est rendu en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le souvenir que gardent les Arméniens de ce voyage, au cours duquel, entre autres, donc le pape a parlé utilisé le mot génocide pour évoquer la tragédie de 1915. Quel souvenir gardent les Arméniens du voyage du pape François?
C'était vraiment un événement historique pour le peuple arménien. C'était la deuxième fois que le pape de Rome s'est rendu en Arménie. Pour la première fois, c'était le pape Jean-Paul II. Et la deuxième fois, l'actuel pape qui s'est rendu en Arménie, qui est remarquable, qui a annoncé que c'est un pèlerinage au premier pays chrétien. Il a évoqué le sujet du génocide. Il a eu le courage de déclarer au monde entier que le génocide arménien, c'était le premier génocide du XXe siècle. Parce que pour les intérêts politiques, certains pays se taisent encore, renient le génocide. Donc, ça a lancé un grand message à tout le monde entier. Ensuite, il a eu beaucoup de cérémonies très symboliques pour le peuple arménien. Il s'est rendu au monastère Khorvia, le fossé profond où le Saint Grégoire l'Illuminateur a été emprisonné avant la conversion du roi Tiridate. Donc avec notre catholicos, le patriarche suprême du peuple de notre église apostolique arménienne, à son siège, c'est Saint Echmiadzin. Donc ils ont lancé des colombes dans l'air et ils ont lancer un message à l'actuelle Turquie pour la paix, pour la paix, parce qu'il y a une certaine rivalité encore qui existe chez les Turcs et Les Arméniens sont considérés comme encore des gens marginalisés, qui sont minorités, qui sont chassés, qui sont sous la pression de cet État.
Alors, pour finir, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la communauté catholique d'Arménie. Donc, ils sont minoritaires. Donc, il y a une église catholique arménienne. Si j'ai bien compris, en fait, elle est surtout présente à l'étranger. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, quelques mots de cette communauté catholique qui avait visité le pape François à l'occasion de son voyage ?
Presque 95% des Arméniens appartiennent par conviction et par filiation à l'Église apostolique arménienne. Nous avons des communautés catholiques et protestants aussi, en Arménie et au diaspora aussi, qui sont minoritaires. Majoritairement, les communautés catholiques existent en Arménie aussi. C'est à cause du génocide aussi, parce que dans l'Empire ottoman, déjà, il y avait des petites communautés fratries catholiques qui se sont réfugiées en Arménie. Parce qu'à l'origine, en Arménie, on n'a jamais eu des communautés catholiques arméniennes jusqu'au début du XXe siècle. C'est à cause des génocides arméniens aussi. Nous avons en diaspora aussi des Arméniens catholiques. Ils sont plus nombreux au Liban. Nous avons des bonnes relations avec nos frères et nos soeurs catholiques, car c'est une église chrétienne. Ce sont les mêmes enseignements qu'on partage. Certainement, c'est une unité qu'on a, sans unanimité. Il y a certaines interprétations que nous ne partageons pas. Voilà, c'est à cause de contexte historique et culturel, certainement.
Voilà. Voilà pour cette rapide présentation donc des chrétiens d'Arménie. Donc je le disais en introduction de cette partie, on n'en a pas parlé, mais je vais le citer. Donc à l'occasion de la mémoire donc du massacre de 1915, du génocide arménien, a été canonisé en 2015 les 1,5 million de victimes. On dit que c'est la plus grande canonisation de l'histoire, donc par l'Église apostolique arménienne. On va faire une deuxième pause et puis après on va retrouver nos invités en plateau, peut-être pour commentaire de ce qui a été dit précédemment et puis pour parler un petit peu des amis de Radio Présence, puisque cette émission a été motivée entre autres par eux, qui ont rencontré en décembre dernier la communauté arménienne de Toulouse.
à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc à la découverte de l'Arménie et de l'Église arménienne, avec, si vous, par hasard, vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle, autour du plateau, Gérard Kargosian, qui est vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, le père Bazikian, qui est prêtre de l'Église apostolique arménienne à Marseille, et Marie-Pierre Pavlak, productrice de l'émission Immersion, et Jean-Marie Ferenbach, président des Amis de Radio Présence. Juste Marie-Pierre, vous nous avez aidé à choisir les pauses musicales. Vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, ou...
Je n'ai pas beaucoup de légitimité.
C'est de la
crois,
musique, c'est de la musique traditionnelle arménienne.
C'est la musique traditionnelle arménienne qui m'avait été conseillée justement par Gérard Kargosian. Et on parlait du doudouk. Vous nous avez dit, Gérard, on pourrait introduire le doudouk. Vous pourriez peut-être nous en dire d'autres.
Dites-nous un mot de peut-être des musiques qu'on a entendues et du doudouk qu'on avait entendu dans la précédente pause.
Oui. Alors, au niveau des
rapidement, bien
au
sûr.
Niveau de l'Arménie, il y a quelques instruments traditionnels qu'il faut évoquer. Il y a le doudouk, qui est un instrument qui est une flûte. En fait, avec une hanche comme un saxophone, hein, voilà, qui est taillé dans un bois d'abricotier. Aujourd'hui, on fait encore des doudouks et cet instrument est absolument particulier parce que le son est très original. On ne trouve pas des sons équivalents dans d'autres instruments aujourd'hui. Il existe même des œuvres pour doudouk et orchestre symphonique qui ont été composées, qui sont assez remarquables. Voilà. Et ce doudouk, en fait, c'est l'instrument, on va dire, adoré par les Arméniens. Le son de doudouk, pour nous, ça représente énormément de choses. Ça représente aussi l'exode, ça représente...
Exactement, c'est ce qu'on sent, hein. Il y a beaucoup de nostalgie.
Il y a beaucoup de nostalgie. Le son du doudouk, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a toujours deux doudouks. Il y en a un qui fait le bourdon, qui fait le son grave, et il y a un autre doudouk qui fait le chant.
Alors, les amis de... Pardon, Marie-Pierre, vous aviez une remarque,
oui. Voilà, oui, puisque nous parlons de musique, j'ai eu la joie de pouvoir partager à deux reprises le Noël arménien qui se déroulera, je crois, Gérard, cette année.
Le 21 janvier.
À l'Arche.
Et j'ai été vraiment frappée, mais vraiment émerveillée par la beauté de la liturgie et par la beauté de la musique et du chant. Alors, du chant de cette liturgie qui n'est pas un chant entre le prêtre, entre le cérémoniaire et puis et l'assemblée, mais entre le prêtre et puis le chantre, en l'occurrence qui est l'épouse, hein, du prêtre, puisque les prêtres arméniens peuvent être mariés. Et donc c'était d'une beauté mais incommensurable qui me rappelait, moi, alors peut-être vraiment vu de l'extérieur et de très loin, la beauté et la solennité peut-être des cérémonies orthodoxes.
Alors, on va quand même parler un tout petit peu des Amis de Radio Présence, puisque cette émission a été motivée entre autres par une conférence qui a eu donc en lieu, c'était en septembre, c'est ça ?
En décembre. Le 12 décembre.
Alors, Jean-Marie Fernbach, vous qui êtes président, les Amis de Radio Présence, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Eh bien, c'est d'abord une association qui est encore jeune, hein, puisqu'elle a été fondée en 2009, à l'initiative d'anciens membres du conseil d'administration de l'association Présence Toulouse. Hein. Bon, et aujourd'hui, c'est 120 adhérents réguliers, c'est une liste de 270 participants occasionnels, bref. Alors pourquoi ? Eh bien, l'intention était d'abord de rassembler un certain nombre d'auditeurs pour qu'ils deviennent amis entre eux, en partageant des activités extrêmement variées, où ils trouveraient intérêt, et puis aussi devenir des amis de la radio, en s'engageant de façon ponctuelle à contribuer.
Pourquoi la radio a-t-elle besoin d'amis ? Elle a déjà des auditeurs, ça lui suffit, non ?
Oui, mais des auditeurs qui deviennent des amis, ce sont des auditeurs qui forment une espèce de halo autour de la radio, qui sont quelquefois des ambassadeurs de la radio dans leur paroisse, dans le diocèse, un peu autour d'eux, et qui finalement favorise des engagements de certaines personnes, pas forcément comme producteurs à la radio, mais comme intervenants dans des cas particuliers, par exemple une présence sur le stand de la radio à la foire de Toulouse, ou une tenue de buffet pour le Radiodon, ou des choses extrêmement diverses, et puis quelquefois des activités qui vont donner une notoriété à la radio, par exemple quand nous avons fait pendant 4 ans de la promotion du théâtre chrétien ou de la littérature chrétienne à Toulouse. Je pense que pour la radio, c'était un élément qu'elle
ne pouvait pas elle-même gérer et que les amis ont essayé de mettre en place.
Et on sait qu'il y a, il y a encore du travail puisque la notoriété, enfin dans les études de, comment dire, dans les sondages d'opinion, il est dit que la notoriété de Radio Présence est encore à conquérir puisqu'il y aurait un catholique pratiquant, je crois, sur deux qui n'aurait jamais entendu parler encore de la radio en Midi-Pyrénées. Bref, il faut beaucoup d'amis à Radio Présence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-unes des grandes activités que vous avez eues ensemble? Je sais pas, mettez-nous l'eau à la bouche avant de nous parler du programme 2018.
Oui, nous essayons d'être très variés et aussi de ne pas faire des choses qui soient, je dirais, du ressort des syndicats d'initiative ou des offices de tourisme. Hein. Alors, ça peut être une visite un peu customisée des Jacobins, en ayant des présences d'anciens, hein, d'anciens qui ont contribué à la restauration des Jacobins, mais ça peut être aussi des visites de caractère industriel, un peu exceptionnelles, parce qu'il n'est pas toujours facile d'entrer dans une industrie.
Par exemple
Figeac. À Figeac, nous avons fait le même jour. Figeac, c'est loin, hein, pour notre rayon d'action. Hein. Mais à
c'est
Figeac,
loin, mais
nous avons
présence,
fait le même jour une visite de Radioprésence, qui nous accueillait là-bas, mais surtout la visite du musée Champollion, qui ne manque pas d'intérêt, hein. Et enfin la visite de Ratier Figeac, qui est une des usines extraordinaires, une usine phare en tout cas à Figeac, sachant qu'il faut savoir que l'industrie américaine, le groupe United Technology, a acheté cette usine en France pour faire toutes les hélices du monde entier, des produits aussi bien américains qu'européens.
Le programme 2018, Jean-Marie.
Alors, le programme 2018,
qu'avez-vous dans votre besace?
Eh bien, je vais surtout évoquer ce que nous allons faire très prochainement. Hein. Alors, très prochainement, nous avons, au mois de janvier, tout à fait prochainement, nous avons la rencontre de la communauté orthodoxe russe de Toulouse, qui aura lieu le 18 janvier, matinée.
On a fait une émission en décembre. Mmh.
Et ça, dans le cadre de la semaine de l'unité, également.
Et puis nous aurons, peu de temps après, ça se passera le 8 février à l'Institut catholique, nous aurons, en partenariat avec les amis de l'Institut catholique, qui sont de bons amis pour nous aussi, une conférence du père Jean-Jacques Rouchy, qui est un spécialiste de l'islam.
Voilà, délégué au dialogue avec l'islam pour le diocèse de Toulouse.
Absolument, sur les origines de l'islam. Et puis ensuite, nous aurons diverses activités qui se fixeront peu à peu en date. Je ne peux pas donner les dates aujourd'hui, mais sachons par exemple que nous irons visiter Muret au printemps. Hein,
que c'est nous en, aurons... en préparation, Jean-Marie.
Voilà, que nous aurons aussi...
Et mais Muret, qu'est-ce que vous irez visiter à Muret, juste? Ah, c'est
Marie-Pierre.
Marie-Pierre, allez-y, le mot
alors,
de la fin.
Nous ferons une halte au Carmel, et puis le reste est en préparation, mais le Carmel, c'est sûr.
Et puis nous retournerons à Saint-Étienne dans peu de temps, je pense au mois de mai.
Voilà, donc les amis de Radio Présence, eh ben, si vous voulez en savoir plus, tout simplement vous appelez le standard de la radio et on se fera un plaisir de vous donner quelques informations. Le 21 janvier prochain, c'est donc, ça sera le Noël donc, de l'Église apostolique arménienne, donc à l'Arche à Toulouse. Et Marie-Pierre me fait des grands signes pour rappeler qu'il y a un pèlerinage qui est prévu par le diocèse de Toulouse en Arménie en septembre prochain. Il y aura toutes les informations sur notre site internet. Merci beaucoup d'être venu vous soumettre à cet exercice redoutable d'une émission de radio. Merci au père Bazikian pour nous parler et nous aider à découvrir l'Arménie. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.